Alors là, je vais commencer à manger mon ortolan. Alors je le prends, et cet ortolan, il est brûlant, n'est-ce pas? Alors je le mets, voyez-vous, contre la joue. Là, il est chaud. C'est chaud. Et là, chose qu'on ne devrait pas faire, qui n'est pas très jolie, je commence à le prendre et à lui sucer le derrière. Oh, mon amour, si vous pouviez déguster ce que je mange, moi.
Voilà, c'est peut-être très bon, mais on se contentera de croire Maïté sur parole, car la tradition millénaire du gobage de ce petit oiseau migrateur est à l'origine de son extinction, et c'est aujourd'hui la une de la science, Axel Villard.
Et oui, Mathieu, une étude internationale en apporte la preuve aujourd'hui dans la revue Science Advances. En 2016, déjà un recensement montrait que les populations de bruants-ortolans avaient diminué de 88% en 35 ans. Aujourd'hui, c'est l'impact du braconnage, surtout dans le sud-ouest de la France, qui est calculé. Il représente au moins 50% de ce déclin. Un travail mené sur les traces du petit migrateur aux quatre coins du globe et que vous avez coordonné, Frédéric Giguet. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ornithologue et professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle. Alors pourquoi est-ce que l'impact du braconnage que vous calculez aujourd'hui était important à démontrer? La preuve du déclin n'a pas suffi à faire stopper cette pratique en 2016?
Alors, c'est toujours une question importante de savoir si les individus qu'on va prélever dans une population seraient de toute façon morts naturellement par la suite, donc on a une mortalité qui peut être compensée, ou si elle est additive, si elle a lieu en plus de la mortalité naturelle. Donc on est là, les scientifiques, pour développer des modèles et intégrer ce type de paramètres et voir en quoi une mortalité supplémentaire peut effectivement avoir un impact sur l'état de santé des populations.
Comment se passe le piégeage de ces oiseaux exactement?
Alors, comment il se passait dans le cadre de la chasse traditionnelle?
Donc c'est terminé, on ne le chasse plus?
Alors, a priori, oui. Suite à cette étude et à différentes décisions politiques, il semble que depuis 2 ans, en fait, les chasseurs, et d'ailleurs la Fédération départementale des Landes, a appelé officiellement à stopper cette pratique. D'accord. Sur l'ortolan. Donc normalement, il n'y a plus de chasse à l'ortolan en France et en Europe. Ce qui peut permettre à l'espèce de tenter de survivre aux autres problèmes auxquels doivent faire les oiseaux aujourd'hui.
Alors comment faisait-on ?
Alors, le principe en fait était basé sur une connaissance naturaliste très forte de l'espèce et de sa migration. L'ortolan en migration vole assez bas et pousse des petits cris. L'étendeur capturait des oiseaux, les gardait d'une année sur l'autre et les place dans des cages au sol, sur des sites où ils vont attirer les oiseaux qui passent en vol, les migrateurs, qui vont crier, mais les oiseaux dans les cages au sol vont leur répondre et ça va les attirer, les faire se poser. Et ensuite, il y a des petites cages au sol avec des graines dessous. Quand les ortolans sauvages vont aller au sol et se diriger vers les graines, ils vont marcher sur un petit système de déclenchement qui fait tomber la cage. Ils se retrouvent prisonniers.
Alors pour aller jusqu'au bout de la tradition, ensuite ils étaient engraissés et puis on les mangeait après les avoir noyés dans de l'armagnac. A priori, c'est ça, tout le plat traditionnel, c'est ça?
Oui, alors sur Internet, on peut trouver, ou dans différents documents, différentes recettes, différentes références. Il y a même une description de recettes dans l'encyclopédie. Donc ça remonte à très longtemps, mais oui, il y avait différentes manières de le préparer. Et un mets qui a aussi été largement défendu par certains grands chefs étoilés en France.
Alors, vu que c'est la première fois que c'est fait, comment vous y êtes-vous pris pour démontrer que ces captures jouaient un rôle important dans le déclin de ces populations d'oiseaux? Puisque c'est ça qui est important dans votre travail publié aujourd'hui.
Oui, alors la première étape a été de déterminer combien d'ortolans passaient par le sud-ouest de la France, d'où ils venaient et quel était l'état de ces populations. Donc là, ça a nécessité la mise en place de 3 méthodes principales. De la génétique pour cartographier les populations européennes et pouvoir attribuer les oiseaux capturés en France à une origine génétique. Des isotopes stables, donc là de la chimie réalisée sur les plumes et la composition des plumes pour savoir où les oiseaux sont allés passer l'hiver et quand on les capture en migration chez nous, où leurs plumes ont poussé pendant la saison de reproduction. Et troisième méthodologie, une petite technologie embarquée, des photomètres qui enregistrent l'intensité de la lumière en permanence, que l'on doit récupérer l'année suivante et qui vont nous permettre de retracer le trajet de migration de l'oiseau à partir des informations sur la durée du jour et l'heure du midi solaire ou du minuit solaire également, qui nous permettent de replacer l'oiseau en longitude et latitude.
Est-ce que vous utilisez les techniques des chasseurs pour attraper les ortolans et les marquer, vous aussi?
Alors oui, on attire les ortolans avec leur chant. Ouais. Par contre, on n'utilise pas d'ortolans captifs. on utilise des magnétophones qui diffusent le chant ou les cris de l'espèce.
Alors vous avez parlé des géolocalisateurs pour un oiseau qui fait 30 grammes. On a du mal à imaginer à quoi ça ressemble sur l'animal.
Alors c'est un tout petit appareil, hein. Ce qu'on a utilisé pèse un demi-gramme. Ils sont fixés sur le dos de l'oiseau, en fait, avec ce qu'on appelle un leg loop. C'est une sorte de cordelette en 8 qui va faire le tour de chaque patte. Donc l'oiseau a son petit sac à dos avec un petit tube, une petite antenne qui va diriger la lumière vers le photomètre.
Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez lire en continu, les données qui vous viennent de ces appareils?
Alors les données sont enregistrées, mais on doit récupérer l'appareil l'année suivante pour pouvoir accéder aux données. Donc ça nécessite que l'oiseau ait survécu, qu'il soit revenu au même endroit, qu'on le retrouve et qu'on arrive à le recapturer.
C'est quoi la durée de vie d'un ortolan à peu près?
Alors les taux de survie qu'on a estimés sont de 66% à peu près. Ça veut dire que la durée de vie des adultes, en moyenne, ça doit être 5-6 ans.
Mmh. Alors voilà. Je disais en introduction que c'est au moins 50% du déclin qui est dû à ces piégeages. Alors quelles sont les autres raisons qui font que ces animaux déclinent aujourd'hui?
Alors comme beaucoup d'oiseaux des milieux agricoles, on va dire que la principale cause de déclin de l'ortolan, qui est en déclin donc depuis très longtemps, c'est les grands changements des milieux agricoles, la disparition des haies, la disparition des insectes. Mais il est vrai que avec nos modèles et ayant identifié les populations d'origine prélevées en France, on s'aperçoit que ces populations-là sont deux fois plus en déclin que toutes les autres populations d'ortolans, que ce soit en Russie, en Italie, en Grèce, etc. Et que quand on fait des modèles un petit peu plus compliqués avec des matrices de Leslie et compagnie, on s'aperçoit que les prélèvements estimés en France dans les années récentes contribuent pour moitié à la tendance de ces populations. Et donc ça paraît assez logique qu'effectivement les prélèvements en France étaient responsables, enfin doublaient le déclin de ces populations particulières. Alors ça ne veut pas dire que maintenant qu'on a arrêté, on n'a pas sauvé l'ortolan, parce qu'il lui reste les mêmes contraintes que partout ailleurs en Europe, et donc un déclin qui peut continuer, mais maintenant on sait que voilà, si on agit correctement sur les systèmes agricoles, nos systèmes de production, la politique agricole commune, on a plus de chances de sauver l'ortolan.
Est-ce qu'aujourd'hui il reste des braconniers, des gens qui seraient surveillés ou condamnés? Est-ce qu'on voit que ça continue?
Alors a priori ça ne continue pas, il n'y a pas eu de procès-verbaux je crois sur les deux dernières années. C'est une bonne chose, je crois qu'il y a une prise de conscience qui s'est effectuée. Hein. Cet article il n'est pas là pour essayer de montrer du doigt ou de culpabiliser certaines pratiques. Il est juste là pour essayer de poser, grâce à un collectif académique, des faits et de dire que voilà, la bonne décision a été prise et je crois que tout le monde peut se satisfaire de la décision politique qui a été prise.
Ça veut dire que vous êtes prêt à le refaire pour d'autres oiseaux s'il le faut?
On est prêt, tout est prêt et je pense que c'est aussi une excellente solution de confier ce type de résolution de conflit à des chercheurs académiques objectifs et indépendants.
Voilà, Jacques Balthazar, vous nous avez rejoint dans ce studio, on est ravis de vous accueillir.
Bonjour.
Vous n'avez jamais travaillé sur les ortolans, vous?
Je n'ai pas travaillé sur les ortolans, je les ai vus beaucoup migrer, mais je suis ornithologue de terrain à mes heures perdues, donc les oiseaux m'intéressent énormément et je connais la problématique qui vient d'être développée ici.
Voilà, vous, c'est plutôt la caillou le canard.
C'est caillou canard, c'est des espèces domestiques qu'on met en captivité.
Bon, dans un instant. Merci beaucoup à vous.
Merci à vous.